Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux 11 apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous bouleversés et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez, un esprit n'a pas de chair ni d'os, comme vous constatez que j'en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu'il prit et mangea devant eux. Puis il leur déclara, « Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors, il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures et leur dit, « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. » Acclamons la parole de Dieu. Nous voici déjà arrivés, bien chers frères et sœurs, au troisième dimanche de ce temps de Pâques. Et depuis que nous étions entrés dans ce temps pascal, la liturgie ne cesse de nous donner de méditer le livre des Actes des Apôtres qui nous donne une fois de plus de découvrir comment nos aînés dans la foi s'étaient organisés pour que la proclamation de la parole de Dieu deviennent effectives sur terre et dans le monde. Mais la méditation des Écritures de ce temps pascal nous donne aussi de voir d'une certaine façon les récits de la résurrection comme si elle-même la liturgie voulait nous donner, comme qui dirait, les preuves matérielles des événements de la résurrection. Parmi les récits de la résurrection, celui qui insiste le plus sur la dimension corporelle de l'au-delà de la mort, c'est certainement le récit rédigé par saint Luc, dont nous méditons aujourd'hui l'Évangile. En effet, écrivant pour des lecteurs d'origine grecque et de mentalité grecque, dans les schémas mentaux, à la suite du grand philosophe Platon, parlait surtout de l'immortalité de l'âme. Saint Luc manifestement veut affirmer ici que Jésus ressuscité n'est pas simplement une âme ni un esprit, mais qu'il est, je dirais, une globalité de l'être qui englobe, je dirais, tout ce qui peut constituer l'existence d'une vie humaine terrestre. Il convient ici de rappeler, bien chers amis, que saint Luc est de formation, est médecin de formation, et qu'il est donc a priori, je dirais, habitué à toucher le corps, à ausculter les corps. Il est aussi plus attentif aux aspects biologiques présents dans cet événement de la résurrection. Il est aussi certainement plus attentif à tous les aspects, je dirais, physiques, hein, un peu comme il nous a été donné de le méditer à travers notre frère Saint Thomas dimanche dernier. Et ce n'est pas pour rien, je dirais même plutôt, que c'est à dessein que Saint Luc, dans l'évangile de ce jour, insiste une fois de plus sur la réalité des mains, la réalité des pieds, les cicatrices, jusqu'à parler de l'estomac, puisqu'il est question ici de faim. Et Jésus lui-même d'ailleurs demande à ses apôtres, « Avez-vous quelque chose ici à manger ?» comme pour exprimer la faim biologique, la faim physique qui pouvait ici toucher le corps même du ressuscité. Avec ces paroles mises par Luc sur les lèvres de Jésus, « Touchez-moi, regardez-moi, donnez-moi à manger. » Se pose alors ici pour nous la question du salut intégral, dont la foi affirme qu'il va jusqu'à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Alors, cette question est intéressante parce qu'elle pourrait nous être posée d'une autre façon en disant, mais si on parle de la résurrection des corps, que peut-on dire par rapport à cette question-là des corps de nos défunts qui, eux, ont été crématisés? Peut-on encore parler à ce moment-là de la résurrection des corps? Mais ce sujet qui me semble particulièrement intéressant pourrait être abordé dans une autre circonstance, si vous voulez bien, peut-être au cours d'une conférence spirituelle pendant le temps de l'Avent ou pendant le temps du Carême des années à venir. Le salut qui englobe non seulement l'esprit, mais aussi la chair, dans le corps dans sa pleine, donc le corps dans sa pleine totalité. Et c'est tout le mystère que Saint Luc ici, qui est de formation médecin, veut donner à comprendre à ses lecteurs. L'idée qui semble se révéler finalement en arrière-plan de tout ceci est celle du profond et légitime désir d'être sauvé. Toutefois, et nous pouvons l'avouer, les chrétiens ne sont pas les seuls à manifester ou à être habités par ce grand désir d'être un jour sauvé. Car si nous voyageons à travers le monde, nous verrons que chez toutes les civilisations, dans toutes les civilisations, chez tous les peuples et dans toutes les religions, on cherche le salut, on cherche la rédemption, on cherche à être sauvé par ce qui nous dépasse. On aspire à une vie meilleure, à une vie bonne, à une vie qui dépasse notre vie terrestre, même si pour certains individus sur la terre, la vie peut ressembler déjà à une sorte de paradis, quoi. Ils ont tellement de choses bien, il y a tellement de belles choses qui se passent dans leur existence qu'ils font peut-être ici-bas l'expérience par anticipation de la vie dans l'au-delà. Et donc nous chrétiens, nous sommes loin d'être les seuls à manifester ou à faire l'expérience de ce fameux désir d'être sauvés. Aujourd'hui encore, et dans notre monde actuel, il existe d'autres voies de salut, lesquelles ne sont pas forcément religieuses. Beaucoup, nombreuses d'entre ces voies sont religieuses, mais il y en a d'autres qui ne le sont pas et qui sont peut-être des idéologies qui donnent à comprendre à l'être humain qu'on peut peut-être aussi atteindre le salut, pas forcément celui donné par Dieu, sans pour autant avoir comme référence la foi, sans pour autant avoir comme référence Jésus le Christ. Au fin fond de l'Afrique, qui est mon continent d'origine, on peut y trouver des croyances qui existent, qui sont installées dans une région, qui sont installées sur un territoire, lesquelles croyances donnent du sens à la vie de ceux et celles qui les pratiquent. Et pourtant, ces croyances n'ont aucune référence à Jésus le Christ. Et pourtant, ces croyances n'ont aucune référence au peuple chrétien. Et pourtant, ceux qui y croient sont convaincus que c'est par ces croyances-là qu'ils vont pouvoir obtenir le salut. Ceux et celles qui y croient sont donc persuadés que le salut se trouve dans le choix des croyances qu'ils ont fait et non pas ailleurs. Alors au milieu de ces multiples voies, ou au milieu de ces multiples propositions qui existent, qu'est-ce qui fait ici l'originalité, j'allais dire, du salut donné par Dieu en Jésus-Christ? Ou plutôt, au regard de tout ce que nous pouvons voir dans le monde et sur la terre, qu'est-ce qui fait que le salut des chrétiens soit spécifique, qu'il ait quelque chose de particulier? Bien chers amis, bien chers frères et sœurs, la proposition de Jésus qu'aucun autre avant lui n'a faite est que le salut est donné aux hommes en Jésus ressuscité. Nous sommes donc certainement les seuls à croire en la possibilité que le salut nous vient à travers un homme envoyé par Dieu sur la terre, un homme qui fut mis à mort et qui ressuscita. Et grâce à ces événements-là, de sa mort et de sa résurrection, le salut est entré dans la vie des êtres humains que nous sommes. L'originalité donc du salut chrétien réside en ce que Dieu veut les hommes vivants. Il les veut debout, il veut la réussite au total de leur vie, de leur existence. Il veut également la réussite totale de son dessein créateur, qui doit s'achever dans une résurrection de la chair pour chaque personne et pour chaque individu de la façon la plus unique qui soit. Et la question que je vous ai posée en amont, celle de savoir, mais pour nos frères et sœurs défunts dont les corps sont crématisés, quel est, je dirais, leur sort? Voilà une question que l'on peut nous poser aujourd'hui à nous qui sommes chrétiens et qui croyons en la résurrection de la chair. Comme nous allons nous le rappeler tout à l'heure au cours de cette messe dans notre confession de foi. Du coup, l'humble récit ou le simple récit que Saint Luc nous propose de méditer aujourd'hui nous revient en mémoire. Touchez-moi, regardez mes mains et mes pieds, avez-vous ici quelque chose à manger? Tout ceci est particulièrement physique et la question des preuves, je dirais, physiques de la résurrection est intéressante à poser, et nous pouvons nous rappeler les événements du dimanche de Pâques, au matin de Pâques, lorsque Saint Jean et Saint Pierre arrivèrent au tombeau. Pierre, qui entra le premier dans le tombeau, n'avait certainement pas compris que la résurrection s'était réalisée, mais était peut-être à ce moment-là dans une croyance lui donnant à penser que le corps s'est déplacé, ou plutôt que le corps a été déplacé. Et c'est Saint Jean qui, en second lieu, entra dans le tombeau, il vit et il crut. Et pour lui, il n'y avait pas de doute que le fait même que le corps soit absent du tombeau était déjà pour Saint Jean, à ce moment-là même, une preuve matérielle, une preuve physique de la résurrection de son Seigneur. En effet, les 11 apôtres, à en être les témoins, étaient stupéfaits et saisis de crainte. C'est bien le corps du crucifié, encore balafré de cicatrices, qui est ressuscité, mais dans un monde d'existence qui nous dépasse, comme d'ailleurs tout ce qui est de l'ordre du divin. Hier, en célébrant la messe avec quelques jeunes qui étaient venus, je leur disais, vous savez, chers amis, chers jeunes, que si l'histoire de Jésus avait été montée de toutes pièces par les êtres humains, elle aurait été mathématiquement, objectivement logique. Or, lorsque nous regardons et que nous relisons toute l'histoire de Jésus, il y a des choses qui échappent à notre logique humaine. Il y a des choses qui échappent à notre entendement humain. Et finalement, ce qui peut être ici expliqué comme une incompréhension par rapport à notre intelligence humaine ne peut être expliqué que par la foi, comme la réalité même divine dont il peut être question dans la méditation de ce jour. Nous reconnaissons donc le fait, ou plutôt l'événement de la résurrection, mais nous n'en savons pas le comment. Voilà. Même Saint-Pierre et Saint-Jean, qui arrivèrent au tombeau, avaient trouvé le tombeau vide, mais ne sauraient dire de la façon la plus objective possible et détaillée de quelle façon le corps avait quitté l'endroit où il avait été mis quelques jours auparavant. Nous reconnaissons donc nous, par le mystère même de notre foi, les événements de la résurrection, mais nous ne saurons être en mesure de dire le comment de tout cela. Les apôtres eux-mêmes ne s'y attendaient pas, et nous le savons désormais. Ils n'ont pas inventé cette histoire, pourtant. Mais ils ont été surpris par cette nouvelle stupéfiante et que je pourrais qualifier d'extraordinaire, d'inimaginable. Dans leur joie, ils n'osaient pas y croire, nous dit humblement Saint-Luc dans l'Évangile. Le réalisme finalement de la résurrection corporelle de Jésus m'invite, hein, moi d'abord personnellement, à vérifier comment ma foi, ou plutôt comment ma religion s'incarne-t-elle dans le concret de mes situations plus personnelles, s'incarne-t-elle dans le concret de mes responsabilités, s'incarne-t-elle dans le concret de ma mission, ou plutôt pour d'autres hommes, dans le concret de leur métier et enfin de leur vie de famille. Quoi, qui, plus que les chrétiens, devrait s'engager dans tous les combats pour la vie et pour la justice? Et finalement, pour terminer tout ceci, c'est à chaque fois que je vais lutter personnellement pour qu'advienne un monde plus juste. C'est à chaque fois que je vais lutter personnellement pour que tout être humain ait une vie, je dirais, agréable, comme Dieu le souhaite pour chacun de ses enfants, que je réactualise les événements de la résurrection. Et alors là, je rends de façon concrète hommage, hein, aux apôtres, aux femmes qui étaient allées au tombeau le matin de Pâques et qui vinrent ensuite dire aux autres, voilà ce qui s'est passé. Et à la finale de l'évangile de ce matin, c'est à vous d'en être les témoins. C'est à moi d'en être témoin dans le monde qui est le mien aujourd'hui. Amen.